Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Louisa Yousfi autour de son livre « Rester barbare » paru aux éditions La Fabrique, le 15 mars 2022 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes. Merci d'être là, nombreuses et nombreux, d'avoir bravé le vent qui souffle fort à Toulouse. Merci Louisa d'avoir accepté notre invitation à venir présenter ton livre qui est le premier. Donc Louisa, vous êtes journaliste et militante décoloniale. Donc vous avez un parcours assez, on va dire, littéraire, prépa littéraire, études de philo, école de journalisme. Et vous avez participé à la création en 2017 de Parole d'honneur, qui est un média indépendant et décolonial, dont vous êtes rédactrice en chef. Vous participez également à l'émission Hors Série, c'est là où je vous avais découvert, et qui diffuse donc sur Internet des entretiens filmés avec de la vraie critique dedans. Donc c'est un site sur abonnement, Parole d'honneur, c'est des vidéos disponibles sur YouTube.
Oui, sur YouTube, et il y a un site également, c'est le site Parole d'honneur, tout simplement.
Okay.
On est aussi sur Twitch, depuis peu.
Pour les jeunes.
Parce qu'on est jeunes,
oui. Oui, pour les jeunes. Et vous êtes donc ici pour nous présenter ce livre bref et incisif, Rester barbare, dans lequel vous entreprenez un geste qui est à la fois littéraire, sensible et autant que politique, et qui est le résultat d'une confrontation entre une formule de Katia Biassine, dont vous nous parlerez peut-être plus en détail tout à l'heure, et qui a donné son titre au livre, et ce discours sur l'ensauvagement, donc qui consiste à penser, à répandre l'idée que les Noirs et les Arabes représenteraient une menace pour le pays et serait responsable d'une espèce de dégradation morale de la société française. Donc vous êtes militante depuis de nombreuses années et grande lectrice des auteurs et autrices du mouvement décolonial. Alors je voulais savoir, pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir apporter votre pierre à l'édifice de la pensée décoloniale avec un livre ?
Merci. Merci pour l'invitation. Et merci à vous qui vous êtes déplacés pour m'entendre. Ce qui m'a poussée à écrire ce livre, je dirais que c'est la formule de Katia Biassine, tout simplement, hein, comme vous l'avez indiqué. Une formule que j'ai entendue il y a quelques années, c'était lors d'une émission radiophonique qui a été rediffusée sur France Culture, où il disait, je cite, « Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivée, il faut que je garde une espèce de barbarie, il faut que je reste barbare. » Et alors cette formule, elle m'avait immédiatement frappée, sans trop que je ne sache pourquoi. Et ensuite, elle m'a poursuivie pendant des années, durant lesquelles je suis entrée en politique, entre guillemets, c'est-à-dire où je me suis mise à militer au sein du mouvement décolonial, plus précisément du Parti des Indiennes de la République. Et cette formule, elle est restée là autour de moi, elle a tourné pendant des années, comme ça. Et j'avais une intuition qu'elle contenait quelque chose qui était de l'ordre d'un récit qui me concernait intimement, mais qui me concernait en tant qu'enfant de l'immigration post-coloniale. Et que donc elle avait à voir avec quelque chose comme une condition sociale, quoi, voire raciale en fait. Et alors, j'ai mis du temps, voilà, j'ai explorer cette formule. Et je crois que le livre, en fait, c'est une exploration de cette formule. C'est une espèce de déclinaison. Et j'essaie de l'amener, d'aller jusqu'au bout. J'essaie de lui faire cracher le morceau, comme on dit. C'est-à-dire que, bon, ben, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter, voilà. Et alors, dans un premier temps, ce qu'elle avait à me raconter, que j'ai saisi, notamment grâce à mon pied dans le militantisme, c'est que je ne suis pas restée barbare, en fait. Et moi, je ne suis pas restée barbare, précisément, justement. C'est-à-dire que j'ai été domestiquée tout au long de mon parcours, qui est un parcours scolaire, qui est un parcours social. J'ai été domestiquée, c'est-à-dire que j'ai été rendue inoffensive de manière, en fait, à ce que je m'insère dans un monde, dans un système qui, par ailleurs, fonde son empire sur l'idée qu'il existe une organisation morale du monde qui opposerait les civilisés, l'humanité, quoi, que serait donc l'Occident avec ses normes et ses valeurs, et sa périphérie monstrueuse, que c'est donc les barbares. Et les barbares, c'est nous, c'est-à-dire les... Alors, à la fois, bien sûr, ceux qui sont en dehors de l'Empire, donc le Sud, le Grand Sud, mais aussi les barbares de la périphérie, c'est-à-dire les barbares de l'intérieur, que sont les Noirs et les Arabes en France. Et alors, c'est pas anodin, en fait, que d'avoir à s'insérer dans un système, en fait, qui repose sur cette hiérarchie, c'est-à-dire que comment, du coup, on le vit, en fait, de l'intérieur, moi, ce que j'appelle cette tragédie, parce que c'est-à-dire quand on est amené pour notre salut immédiat à renier une partie de soi, de son origine, de sa culture, de ses parents. Et on est amené justement à nous débarrasser de nos restes de barbarie. Et à partir de ce diagnostic, qui est un diagnostic assez finalement maintenant, parce que c'est la base, je dirais, du mouvement décolonial, c'est de partir de ce diagnostic. Mais à partir de ce récit, je me suis dit que du coup, il fallait peut-être plutôt que d'essayer de se débattre avec cette façon de voir les choses, c'est-à-dire que nous, on serait un danger pour le système, on pourrait se dire que tant mieux. Et c'est une manière aussi de... La fameuse stratégie du retournement de stigma. Je dis qu'il y a des peuples alchimistes qui ont procédé au miracle de transformer l'infamie en noblesse. Et ben, le mouvement décolonial, il fait ça aussi. Il prend une stratégie qui consiste à dire oui et alors, plutôt que d'être dans une posture défensive du mythe intégrationniste, donc du mythe qui consisterait à dire que notre salut à nous tous, en fait, pour qu'on puisse s'en sortir, mais même moralement, c'est de précisément endosser le système tel qu'il est et puis y pénétrer et être, en fait, tout simplement des Français comme les autres, quoi, se mouler et puis même s'effacer, tout simplement, disparaître. Eh bien, au lieu de ça, on pourrait, au contraire, inverser les choses et se dire que le salut, il est quelque part précisément dans la part qui n'est pas acceptée par le système et qui est cette inassimilable en nous. C'est ça la part de barbarie. C'est ce qui résiste malgré nous. Il y a ce truc qui tient encore à lui-même. Et voilà. Et en fait, ce que je voulais décrire pour résumer cette première partie, je suis un peu longue, hein, tu me dis s'il faut arrêter. C'est surtout, je voulais mettre en scène le fait que le processus intégrationniste n'est pas, comme on a tendance à le présenter, un mouvement pacifique, sain, serein, un truc qui se passe. Voilà, on s'intègre et c'est bien, et puis de toute façon, ça va arriver. C'est une guerre, en fait. C'est une guerre qui est menée à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une guerre intime qui nous est faite, c'est une violence. C'est une acculturation, c'est une manière de faire disparaître quelque chose en nous. Et voilà, et c'est rester barbare, je l'ai pensé comme un appel à ce livre. En fait, c'est comme un petit manifeste. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais aussi esthétique, pas que politique, qui appelle justement à tenir à cette chose qui est, que l'Empire cherche à faire disparaître. Quoi.
Oui, donc en fait, effectivement, il s'appuie sur des textes qui ne sont pas politiques, puisque le livre est construit en chapitres qui sont dédiés à des textes de Chester Himes, Aimé Césaire, Toni Morrison. Et aussi, et ça m'a un peu surpris parce que je ne m'attendais pas forcément à ça quand Stella m'avait parlé du livre, en analysant l'esthétique du rappeur Booba et du groupe de rap PNL, qui occupe une partie importante du livre au final. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que de dérouler un petit peu le fil chapitre par chapitre, puis de toute façon, si on peut rebondir, et si jamais on voit que c'est un peu long, on passera aux échanges avec le public, parce que l'idée, c'est quand même de laisser la place aux échanges le plus largement possible. Donc dans le chapitre qui suit l'introduction, qui s'appelle « Noir, tu blanche », et qui est le fruit d'une lecture du livre de Chester Himes, « La fin d'un primitif », tu défends la thèse paradoxale que résister à l'intégration, tu en as un petit peu parlé, c'est résister à l'ensauvagement. Est-ce que tu peux du coup aller un peu plus dans le détail sur cette question-là? Parce que du coup, la question, ce serait, est-ce qu'au fond, le barbare ne serait pas celui qu'on croit?
Oui, en fait, là, c'est très délicat de parler de ce texte. J'ai trouvé que c'était le plus... c'est très délicat parce qu'il défend une thèse donc, que tu viens d'être dénoncée et que je formalise de manière très claire hein, dans le livre où je dis que l'ensauvagement est un processus intégrationniste. Et en même temps, c'est une formule. C'est pour ça que c'est important, la littérature. C'est une formule qui, en soi, si on l'a dit comme ça, en politique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne comprend pas trop. Enfin, bon, on voit que ça fait appel à un retournement. Mais on se dit encore un énième retournement. Bon, au bout d'un moment, ça fait pas, voilà, on ne va pas à chaque fois tout retourner. Et ça ne fait pas une politique. Quoi. Et voilà, donc ce n'est pas incarné. Et il se trouve que dans un roman de Chester Himes, qui est un roman de littérature blanche, il n'est pas connu pour cette littérature-là, lui est plutôt connu pour la littérature, pour les polars, la littérature noire. Mais en l'occurrence, celui-ci, il met en scène cette phrase, quoi. C'est ça qui est incroyable. Il a fait vivre comme si, en fait, de toute façon, il n'était pas possible de l'expliquer autrement qu'en la mettant... en la faisant incarner dans un récit par des personnages. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça formidable. En fait, quand je suis tombée sur ce livre, j'avais l'impression que... Je me suis dit, OK, en fait, j'ai réalisé... je le savais, mais c'était la preuve supplémentaire que la littérature, elle apportait quelque chose de supplémentaire encore. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'opposé à la politique, mais elle vient l'éclairer d'un jour nouveau. Quoi. Elle vient la rendre plus vivace, plus intense, on la comprend immédiatement. L'ensauvagement est un processus intégrationniste. Moi, j'ai pas envie de trop déflorer, donc de raconter l'histoire du livre de Chester Himes. Mais en gros, effectivement, l'idée consiste à dire que, alors plusieurs choses, pardon. D'abord, quand on parle de l'ensauvagement, c'est en général, ce terme arrive sur le débat public via l'extrême droite ou alors le gouvernement. Je crois que c'était Darmanin à ce moment-là qu'il avait. Moi, au moment de l'écriture, Darmanin avait fait une formule comme ça. Effectivement, il y a une partie de la société qui sont sauvages, quelque chose de cet ordre-là, pour parler des quartiers populaires. Quand il arrive sur le débat public, eh bien, ce que en face nous disons pour nous défendre. Alors, soit c'est parce que c'est pas vrai, que c'est faux. C'est-à-dire que, comment dire, en fait, il y a une posture qui consiste à minimiser, à dire mais non, mais y a pas, c'est pas vrai, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de... Enfin, c'est que c'est pas de l'ordre, c'est pas significatif, c'est pas assez significatif pour en faire un concept. Voilà. Ce à quoi je suis assez d'accord. Et puis, il y a cette façon aussi de défendre l'idée, de dire... Alors, effectivement, bien sûr que les victimes de racisme sont abîmées par le racisme. Et donc, oui, dans les quartiers, oui, il y a des problèmes de drogue, il y a de la délinquance, il y a de la violence, en fait. Il y a de la violence, mais parce que c'est la violence de la société qui s'est abattue sur cette société, dans ces zones, et qui est rentré dans les êtres qui subissent cette violence. Et ça, souvent, c'est la défense que je dirais qui est celle de la sociologie, en fait. C'est on sociologise la raison d'être de nos monstres intérieurs, quoi, en gros. Et alors, moi, il m'a semblé que Chester Himes, dans ce qu'il proposait, c'était un mouvement supérieur encore, mieux que ça. Parce que ça encore, c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de te dire mais non, on n'est pas des monstres de naissance, de fait, on est des monstres sociologiques seulement. C'est juste par sociologie qu'on est. Voilà. C'est pas... Je veux dire, je vois pas en quoi on est moins raciste en disant ça. Quoi. C'est pas parce qu'on l'est pas donné. Je veux dire, de dire oui, mais vous l'êtes quand même. Vous êtes dangereux, mais c'est pas de votre faute. On continue à dire qu'on est dangereux. Quoi. Et alors Chester Himes, lui, propose un retournement complet où, en fait, il dit qu'en fait, on est dangereux à partir du moment où on s'intègre. C'est-à-dire que c'est le système lui-même qui est dangereux pour nous, qui est dangereux pour tous. Et que quand on sent sauvage, en fait, c'est juste qu'on joue le jeu, quoi. On joue le jeu d'un récit qui a été écrit pour que nous soyons justement ces barbares-là. Et alors, il n'est pas question de nous sauver de nos monstres. En fait, la vérité, c'est que c'est nous qui pouvons sauver la société. C'est-à-dire qu'on n'est pas à sauver, en fait. Il y a un livre de Baldwin qui s'appelle Chasser de la lumière, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, et qui a été préfacé justement par Stella Magliani Belkacem, et le titre s'appelle Sauver les Blancs. Et j'aime bien, en fait, parce que sauver les Blancs, parce qu'on part jamais de cette perspective, en fait. On part toujours de la perspective que c'est nous qui sommes carencés en civilisation, carencés en toute chose, quoi, même en moralité, et que du coup, c'est aux Blancs de nous aider, quoi, à nous hisser à hauteur d'homme, à hauteur d'humanité. Et là, il y avait un inversement que je crois que Chester Himes opère vraiment d'une manière extrêmement brillante. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Je ne sais pas si c'est très clair, parce que comme je n'ai pas envie non plus de trop raconter, du coup, c'est un peu flottant comme ça. Mais ouais.
Si on déroule un petit peu le fil du livre, dans l'impossible communion des larmes, vous revenez sur votre incapacité à pleurer devant le carnage qu'a représenté les attentats du 11 septembre 2001. Et puis vous citez aussi votre père, dont j'ai pas noté qui disait
Dieu, le ciel nous vengera.
Le ciel nous vengera. Et j'avais prévu de peut-être de vous citer là sur cette partie-là. Ces terroristes achèvent le destin que l'Empire leur a servi. Au moment du passage à l'acte, ils n'ont donc plus rien en commun avec nous, ce nous intact que nous protégeons contre les assauts de l'intégrationnisme, car ils sont l'Empire, son visage cru mis à nu. Ces monstres familiers, à cause de la vision hallucinée et ensauvagée de nous-mêmes qu'ils nous renvoient, font face à un autre monstre dans le pouvoir particulier de créer les conditions idéologiques, objectives et matérielles de son innocence, Le 11 septembre était leur accouplement incestueux. Ce jour-là, l'Occident a fait une rencontre avec lui-même. Qu'avions-nous à voir avec tout ça ? Du coup,
oui, là aussi, c'était un texte qui était assez compliqué à écrire également, parce que c'est, voilà, c'est un sujet sensible, la question du terrorisme, et que parce que c'est des choses qui sont entremêlées dans ma conscience, quoi. Puis dans, je pense que je peux. Et puis aussi parce que j'ai osé le nous, en fait, à ce moment-là. Et c'est très difficile de se permettre ça, parce qu'on n'est pas dans. On n'a pas envie de mouiller tout le monde, quoi, dans ce genre de choses. Mais je suis partie quand même d'une vérité. De quelque chose d'assez objectif, quoi, puisque c'était un phénomène après les attentats. Alors là, là je parle des attentats du 11 septembre, mais il y a eu même les autres attentats en France où. Les semaines qui ont suivi, on a reproché à des jeunes dans les quartiers de ne pas vouloir respecter la minute de silence ou de dire oui, mais nous, et pourquoi pour la Palestine, on ne fait pas la même chose, mais il y a d'autres drames, etc. Bon. Et ça, c'était la preuve que vraiment, il y avait quelque chose comme une complicité confuse, une complicité tacite, que peut-être eux-mêmes n'ont pas vraiment, dont ils n'ont pas conscience, mais que. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, quoi, que voilà, et avec tous les appels à la désolidarisation, etc. Et alors moi, j'avais envie de clarifier, d'explorer un peu ce sentiment paradoxal, parce que effectivement, le 11 septembre, vous avez dit. Que la veille, c'est ce que je raconte, la veille du 11 septembre, c'est un pur hasard, hein, entendu. On regardait le JT avec mon père, qui est un immigré, entre guillemets, de base, quoi. Je veux dire, c'est très classique, on a une histoire familiale très classique. Hein, c'est un ouvrier qui est venu en France, pas du tout politisé, vraiment pas. Et. Il me dit quelque chose comme Dieu nous vengera au moment où. Alors, c'est parce que c'est assez vague dans mon souvenir. Je crois que j'avais 12-13 ans. C'était en 2001. En parlant en tout cas des Américains, parce qu'ils avaient fait une intervention je ne sais pas où. Voilà. Et je sais que voilà, c'était un truc. Bon, comme ils sont tout le temps en guerre, c'est facile. Bon, j'imagine que c'était. Je ne sais pas. Et Dieu nous vengera, quoi. C'était voilà. Et puis il y avait voilà les Américains, c'était vraiment un fléau, quoi. Le fléau. Bon, et le lendemain, il y a eu les attentats. C'est un truc assez incroyable. Moi, ça m'a, je veux dire, j'ai gardé ça dans toute ma vie, quoi. Non pas que je me disais mon Dieu, mon père a provoqué le truc, mais je me suis dit, il a saisi quelque chose, c'est-à-dire qu'il a senti le bruit qui venait, quoi. Il y a un truc. En fait, il a senti que ça pouvait pas durer comme ça, en fait. Le monde était trop injuste. Il allait se pourrir. Hein. Non pas que c'était pour nous justice qui était faite, même si dans sa bouche, c'est sorti sous cette forme-là. Et c'est tout ça que j'essaye de t'expliquer, c'est que c'est plus complexe que ça. C'est à partir de ce sentiment-là. Qui m'a moi-même pétrifiée, parce que je me suis dit, mais pourquoi alors, pourquoi est-ce que je ne ressens pas ce qu'on devrait ressentir, c'est-à-dire moi aussi être absolument, affectée profondément. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que je suis comme ça, une ensauvagée aussi? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, le sens de ce texte, c'est de. D'essayer de comprendre ce qui se passe en fait en nous. Et ce que je dis, c'est que la vérité, c'est que on a été asséchés, nos larmes ont été asséchées en tant qu'enfants de l'immigration, et qu'il y a une espèce de dégoût à jouer la cohérence jusqu'au bout, voilà, parce qu'il y a on a la conscience du sud meurtri sur lequel est bâtie toute la domination du Nord. Et qu'on ne pleure pas pour autant, parce qu'en fait, nous, on est intégrés. Donc, on est content de jouir de nos privilèges. Je veux dire, ça ne nous empêche pas de vivre, ça ne nous empêche pas de nous coucher le soir et tout. Et alors, quand des choses arrivent aussi en Occident, y a quelque chose, y a une espèce de dégoût, en fait, qui remonte. À la fois contre nous-mêmes, parce que, voilà, on a accepté comme un deal d'être ici, dans les conditions qu'on sait. Je veux dire, la plupart d'entre nous, en général, on a encore de la famille dans les pays, dans nos pays d'origine. Enfin, c'est notre histoire, quoi. On a une conscience, je pense, plus aiguë du Sud, une conscience plus aiguë du monde et de l'injustice qui y règne. Et à la fois, voilà, il y a quelque chose qui cherche à dire aussi ce qui est insupportable. Ce que je dis, c'est qu'il est possible de pleurer, mais pas de pleurer ensemble. Parce qu'on n'est pas au même niveau à ce moment-là. On n'est pas au même endroit, en fait, à ce moment-là. Pleurer en disant on a été attaqué parce qu'on est, on est la civilisation et qu'on est la capitale de l'amour et de la liberté et de la beauté, etc. Non, c'est pas possible, parce que je sais que c'est pas vrai. Je sais qu'on n'a pas été attaqué pour ça. Parce qu'on est beau. Je peux pleurer pour ce que c'est, parce que je sais ce que veut dire que perdre la vie, les gens. Je veux dire, c'est terrifiant, c'est horrible, mais je ne peux pas pleurer sous ce prétexte-là. Par contre, voilà, c'est ça que je cherche à dénouer. Voilà.
Alors après, il y a un chapitre qui est consacré au parcours de Mehdi Meklat. Je ne sais pas si on le passe, on y revient un peu plus tard. C'était pour savoir si tu avais envie d'en parler ou si ça, enfin si ça apportait quelque chose.
Oui, c'est pour ça que j'essaie de comprendre si je vais me répéter ou pas. Je peux dire deux, trois mots. Juste l'histoire de Mehdi Meklat. Pour ceux qui ne connaissent pas Mehdi Meklat, c'est un journaliste, un jeune journaliste qui a fait plein de trucs, qui était écrivain, qui fait du théâtre. Je sais, en tout cas, propulsé du jour au lendemain dans les médias, etc. Qui a fait plein de trucs avec des mécènes qui étaient prêts, qui le soutenaient, etc. En tout cas, voilà, un jeune de quartier, quoi, un arabe jeune de quartier qui, voilà, du jour au lendemain, devient ce qu'on a appelé la coqueluche de la gauche culturelle. Et donc un symbole de la diversité, etc. Et en fait, Mehdi, il avait un pseudo sur Twitter qui s'appelait Marcelin Deschamps, qu'il a nourri pendant des années, et où il disait des insanités, quoi. En fait, il disait des obscénités, des trucs, des trucs hardcore, quoi. Surtout sur les juifs, sur les femmes, sur les homos, des trucs, voilà. Vraiment le symbole, là, pour le coup, un profil en sauvage, quoi. Et puis un jour, tout ça ressort, alors qu'il est au sommet de sa carrière, quoi. Et là, mais évidemment, c'est un scandale, voilà. Et il est englouti par le scandale. Mais bien sûr, comme le scandale explose, en fait, il explose. Ça ne touche pas que lui, ça touche tous ses bienfaiteurs, en fait, ses amis. Les gens disent, voilà quel genre de personne vous avez promu, en nous faisant croire que la banlieue, c'est une banlieue, en faisant croire à l'angélisme des banlieues. Voilà à quoi ils ressemblent vraiment, vos faire valoir, quoi. Ça, enfin, c'est la bataille entre la gauche et la gauche socialiste et la gauche républicaine, et voilà. Et l'extrême droite aussi, et la droite. Bon, du coup, il y a eu toute une histoire, voilà, que j'essaye de donner sens à tout ça, en fait. Un sens qui serait différent que celui qui a été donné par les médias, etc. À savoir, Mehdi, voilà. Alors, c'était un sale type qui a su cacher son jeu. Soit c'était un gars bien, mais c'était un enfant. Enfin, il a cédé à des pulsions, il est bête. Et puis de toute façon, le problème, c'était les réseaux sociaux. Et parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux, il avait fait du troll, quoi, tout simplement. Et le trollage, c'est un phénomène de société. C'est pas, voilà. Et donc, il y a un truc générationnel, quoi. Les vieux n'ont pas compris, mais c'était de l'humour. Et lui, et je pense vraiment que c'était de l'humour en plus. Hein. Je veux dire, après, c'est du mauvais humour, c'est mal placé, etc. On fait ce qu'on veut, mais c'est, je veux dire, c'est de l'humour. Je ne vois même pas comment on peut douter là, qu'il pense vraiment ces choses-là. Vraiment, il y a aucun, moi, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas le problème, en fait. Et j'essaye de trouver une autre façon de. Bah de lire cette affaire. Est-ce que je le dis? Non, mais je peux pas. Ouais, il faut lire le livre. C'est vachement. Ouais, je vais devenir une commerciale.
Bon, bah, du coup, on peut en venir aux deux chapitres que vous consacrez à deux figures du rap français, qui sont Booba et le groupe PNL. Et c'est des chapitres que moi j'ai trouvé particulièrement réussis. En tout cas, c'est des chapitres qui m'ont parlé, qui ont transformé mon regard, qui n'était pas fondé sur quelque chose de. Je n'écoute pas de rap en fait. J'ai écouté un peu de rap, mais plutôt du rap américain des débuts, quoi. Donc dans Onga Onga, qui est un des chapitres, est Niqué pour la vie. Donc vous développez l'idée que ces artistes incarneraient aujourd'hui. Cette espèce de barbarie katébienne que vous décriviez, alors qu'il ne représente apparemment pas ce qu'on pourrait appeler le rap conscient, politique ou engagé, enfin dans mon esprit au départ en tout cas. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rapport au rap et comment vous êtes venu à intégrer deux rappeurs très populaires dans cette réflexion et dans votre livre?
Oui, ils sont très populaires. Moi, en fait, j'ai voulu déjà prendre des rappeurs que j'écoute, tout simplement, que j'aime écouter spontanément. Et aussi, je voulais qu'ils soient au sommet de leur carrière, quoi. Enfin, pas, Booba n'est pas au sommet de sa carrière, mais en tout cas, voilà, il y a personne. Je veux dire, personne ne lui enlève le fait que c'est le Grand Duc, quoi. C'est une légende. PNL aussi. Et en fait, je voulais des modèles de rappeurs qui ont réussi en barbare, c'est-à-dire que sans rien céder. Alors pourquoi moi, j'en suis venue à parler du rap dans un truc comme ça, c'est que là voilà, donc peut-être qu'il faut, du coup il faut revenir au début, c'est-à-dire que quand je disais que je suis domestiquée, que voilà, j'ai écrit ce livre parce que je ne suis pas restée barbare précisément. Moi, je suis une bonne élève de la République. Je rends des bonnes copies. Je corresponds assez bien à ce qu'on attend de moi, quoi. Je veux dire, à ce que la France attend d'une jeune femme, c'est l'immigration. Et du coup, mon rapport en fait à la langue, il est formaté en fait. J'ai une langue qui, genre, même quand, grâce, parce que moi, ce qui m'a libérée, évidemment, c'est la politique, c'est le fait d'avoir milité au contact de ces personnes, c'est ça qui m'a vraiment limité. Et en même temps, j'arrivais pas à trouver la langue qui corresponde à cette émancipation, parce que au moment de vouloir écrire, parce que j'ai toujours pas ça, par contre j'ai toujours voulu écrire, mais j'étais bloquée, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de décalage, quoi, entre ce que je voulais dire et la langue qui se posait à moi, que je trouvais trop, une espèce de carcan trop. Trop poli, trop lissé, voilà. Et je cherchais à salir ma copie, en fait. Comment salir ma copie? Comment on fait ça? Et en même temps, et quand on le fait volontairement, en pensant comme ça, en fait, ça fonctionne pas, parce qu'on pourrait dire, bah, t'as qu'à mettre des gros mots. Ça fait nul, parce que ça, c'est artificiel, quoi. En fait, la vérité, c'est comment renouer avec quelque chose d'authentique, qui est acculturé, justement. Parce que c'est ça, salir sa copie, c'est pas juste dire des gros mots. C'est arriver à trouver un truc en soi que l'Empire n'a pas chopé encore. Et quand on est né là-dedans et qu'on a été, voilà, toute sa vie, on a été une bonne élève, comment on fait ça? Et alors, moi, voilà, j'ai trouvé des exemples dans la littérature noire américaine, parce que. D'ailleurs, c'est un truc qu'on pourrait me dire, mais tu cites beaucoup Chester Himes, Toni Morrison, etc. Peu de français. Parce que c'est vrai, je la trouve. Et encore moins de littérature contemporaine. Parce que je vois bien qu'il y a un geste Il y a un geste de la part des auteurs issus de l'immigration aujourd'hui, hein, qui consiste justement à essayer de, comment dire, de venger leur race, entre guillemets, pour reprendre une formule de Annie Ernaux. C'est-à-dire on écrit pour se réhabiliter, pour reprendre, pour, comment dire, reprendre possession de soi, quoi, tout simplement. Et en même temps, j'ai l'impression que la formule n'est pas encore là, quoi. Il y a un truc qui... la langue, je suis toujours très, très étonnée que la langue soit aussi polie. La forme, elle est polie. Voilà, j'ai le sentiment qu'on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à sortir, qu'on est piégé quelque part dans un paradigme. Et qu'on a tellement de choses à dire, comme il dit... je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivée. Le problème, c'est qu'on est trop cultivée parce qu'on s'est gavé de culture légitime et que maintenant on ressemble plus à rien, en fait. On ressemble à, c'est quoi, c'est ce que je dis, ce barbare qui baragouine un langage châtié, quoi. Ça ressemble à rien, ça. Cette gueule de barbare, quoi. Et en fait, je me suis demandé. Et en fait, il y a un truc qui m'est apparu. C'est que j'écoute du rap en étant tout ce que je suis là, comme ça, je veux dire, avec mon petit col et tout, quoi. Et mais du rap, voilà, quoi. Bon, il y a plus hardcore que PNL et Booba, hein. mais voilà, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est pas évident que moi j'écoute du rap, quoi. Pourquoi j'aime entendre ça, quoi. Et m'est venue l'intuition que peut-être, en fait, ce que je cherche en littérature, je le trouve là, en fait. Je le trouve dans le rap, en fait, cette capacité à précisément être en totale rupture avec ce qu'on attend de soi, à inventer une langue qui est justement qui est de l'ordre du rester barbare, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas, en fait, de vouloir, comment dire, rétablir notre dignité, ce qui est un geste très noble, en fait. C'est très bien d'écrire pour ça. Mais les rappeurs, en fait, ce qu'ils font, c'est... Ils font justement ce « oui, alors, qu'est-ce qu'il y a ?»« Ouais, ouais, on est ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et franchement, moi, je respire, en fait. Ça ouvre un horizon. Et ça rend... tout possible, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi. Moi, je dis pas c'est super parce que du coup ils sont en position comme ça, dans une posture. C'est pas qu'une posture, parce qu'en fait, à l'intérieur de, une fois qu'ils ont posé cette intransigeance là, tout devient possible. On peut tout écrire ensuite, on peut tout faire. Et en fait, la preuve qu'on peut tout faire, c'est PNL, en fait, parce que PNL, il me semble que justement ils ont cette ils posent à la fois l'intransigeance, c'est-à-dire leur QLF, là, cette espèce de territoire qui est un lieu d'énonciation, en fait, que moi, je pense, c'est leur rester barbare à eux. C'est on est entre nous. Donc, ils posent ça, c'est un lieu d'énonciation, un territoire narratif. Oui, pardon, QLF, c'est que la famille, c'est leur mot d'ordre. Donc, en gros, ça veut dire les autres, vous passez votre chemin, en fait. Voilà. Moins on est, mieux on se porte, en fait. On n'a pas besoin de vous. Et une fois qu'on a dit ça, je veux dire, ça s'arrête pas là, parce que si, bon, là, moi ça me plairait, ça, déjà ça, me... mais ça s'arrête pas là. C'est que c'est une fois qu'on a dit ça qu'on peut enfin se dire à nous à quel point on s'aime, en fait, à quel point, et qu'on peut s'épancher, quoi, qu'on peut tout dire. Fait PNL, il y a une impudeur incroyable dans ce qu'ils disent. Je veux dire, c'est une expression des sentiments, il y a une nudité, c'est absolument incroyable, et qui est contrariée par une autre tension narrative qui consiste à se montrer, oui, mais nous, on est des bêtes sauvages, quoi. Et en fait, c'est une espèce de brute sauvage qui se met à pleurer d'un coup. Mais parce que, et en fait, je crois que voilà, il y a quelque chose, c'est une tension que je pense qu'on vit, en fait, qu'on vit nous-mêmes, en fait, en tant que personne issue de l'immigration, qu'on le vit aussi dans le militantisme décolonial, parce que c'est un mouvement qui est très décrié, enfin qui fait face à une grande adversité, qui du coup qui oblige un peu à être un peu froid, un peu, enfin qui oblige à poser une langue. C'est ce qu'on a souvent reproché à, bah, par exemple à des gens comme Ouria Boutelja, à poser une langue très très dure, très intransigeante, qui montre que vraiment il y a aucun moyen de jouer avec elle, quoi. Et puis et à côté de ça, bah, c'est une grande famille, c'est l'amour révolutionnaire, quoi. Mais c'est parce qu'on a posé ça que il devient possible. Je dis sur PNL, se raconter en barbare devient la façon paradoxale de se raconter en humain. Mais si on n'avait pas mis cette intransigeance-là avant, en fait, on aurait été tout simplement bouffé par la bête intégrationniste, en fait. On n'aurait juste pas existé. On aurait été juste des pantins comme tout le monde, quoi. Et là, en fait, c'est un moyen de... Donc c'est ça que j'aurais dû peut-être dire dès le départ. C'est que rester barbare, c'est penser comme un lieu d'énonciation, voilà, comme un territoire narratif qu'on doit protéger et qui va nous permettre ensuite de développer d'autres choses. C'est pour ça que je dis aussi que c'est un manifeste. C'est une espèce de manifeste intime, en fait, hein, parce que je n'ai pas la prétention de faire un manifeste littéraire pour mon époque. Non, mais bah, un manifeste, en tout cas pour moi-même, pour me dire, voilà, il faut que je trouve cet endroit-là. Comme les rappeurs me semblent l'avoir trouvé, certains rappeurs, évidemment, il y a une scène du rap. Mais comme on pourrait imaginer que d'un coup, il y a une scène de la littérature post-coloniale qui est comme horizon commun, se rester barbare, en fait.
C'était bien comme conclusion aussi.
Oui, voilà, bah, d'accord.
Non, parce qu'après, oui, là vous avez répondu. Enfin, tu, je passe du vous au tu. Ouais, parce que j'ai écrit vous. Mais... non, tu parles et t'en as parlé de la difficulté que tu rencontrais en bon élève de la République, donc à décliner la stratégie du rester barbare, c'est ce que tu viens de dire. Mais au féminin, et là peut-être, t'as peut-être pas évoqué cette question du féminin, puisque toutes les figures que tu convoques pour de barbares que tu convoques, ce sont des hommes.
Oui, c'est que des hommes. C'est volontaire. Parce que, plusieurs raisons. D'abord, parce que mon rester barbare à moi, c'est de ne pas, pas écrire en tant que femme issue de l'immigration. Parce qu'écrire en tant que femme d'immigration, aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est, dans les milieux progressistes, c'est plutôt un sésame. C'est plutôt une bonne chose. On a envie d'entendre ce que tu as à dire. C'est... quelque chose et je dis pas que, je veux dire, on peut dire ces choses en plus très je veux dire pas récupérables ou récupérées, hein. On peut dire des choses très libres, mais tout de suite le fait d'être une femme, pourquoi? Parce que je veux dire, il y a un rôle séculier de la femme issue de l'immigration, c'est d'ouvrir la porte de la maison, quoi, et de montrer que voilà comment vous pourriez envisager nos mœurs. C'est une porte d'entrée, quoi. La femme, elle est considérée comme ça. Donc, on a à subir ça. C'est-à-dire que c'est un traitement qu'on subit depuis toujours. Et enfin, ce détournement de nos intérêts de genre sur le dos de la communauté. Et on a à vivre ça, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça, même encore aujourd'hui. Moi, je sais que je suis, quand j'écris à ce moment-là, en 2022, je sais que je suis attendue en tant que femme issue de l'immigration et qu'on attend de moi aussi, notamment, que j'écrive à la première personne, que je raconte ma vie. J'ai voulu d'abord effacer ma position d'énonciation. Je veux pas être là où on veut que je sois, pour commencer. Et à la fin, effectivement, je l'explique. Parce qu'au final, effectivement, je me suis dit qu'il fallait quand même... Je pouvais pas tourner comme ça autour du pot sans dire, enfin, c'est quoi le problème, quoi, avec ça, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai toujours rechigné à écrire en tant que femme, à parler en tant que femme, même à parler de ces sujets, quoi, parce qu'ils sont tellement entachés d'enjeux et puis d'histoires qui pèsent sur nos épaules que c'est un truc, voilà, je rechignais à me rendre à cet endroit-là. J'ai fini par le faire à la fin, quand même, pour l'expliquer. Et alors, il y a plusieurs choses qui en ressort, notamment le fait que, en fait, ce que l'on craint par-dessus tout, bien sûr, c'est de ressusciter une figure qui nous a insulté, quoi. Une figure qui nous a insulté, qui est la figure de la beurette. Et la beurette, elle est toujours, je veux dire, elle est utilisée contre les pères, contre les frères, contre. Et on a toujours peur de la ressusciter. Mais à l'époque, donc de ni pute ni soumise, etc., elle était plutôt adossée, je dirais, aux forces conservatrices du pays. Maintenant, je me demandais juste, est-ce que il n'y a pas un autre endroit où elle pourrait ressusciter, c'est-à-dire à l'endroit des forces progressistes de ce pays. Et comment éviter de la faire ressusciter, parce que ça peut revenir à tout moment. Et on est obligé d'être aux aguets. Et cette manière, cette bienveillance louche avec laquelle on nous accueille dans les librairies. Non, mais il y a un paradoxe, hein, dans tout ce que j'ai, parce que moi j'ai l'impression de vivre ce que je vis.
Bon, on accueille des hommes aussi.
Ce que je veux dire, c'est que même quand je dis rester barbare, je vois bien que par exemple la manière dont je m'adresse, c'est pas, voilà, quoi, je suis pas barbare.
On invitera beaucoup.
Donc il y a quelque chose de louche qui nous oblige à être aux aguets, à être. Mais à quel endroit, en fait, du coup là je vais être barbare. À quel endroit on se fait niquer là? C'est quoi qui nous échappe? Où est le vice, quoi? Et là aussi je dévoile pas, parce que c'est la fin de c'est la fin de mon livre. Mais peut-être que simplement dire un mot quand même sur ce que je disais, c'est les femmes issues de l'immigration, parce qu'il y a quand même toute une littérature, hein, qui a émergé de femmes issues de l'immigration. C'est quand même intéressant, parce que les gens il y a moins d'hommes aujourd'hui qui écrivent, et elles ont un geste, je veux dire, commun, qui consiste déjà à affirmer que c'est fini l'ère des passionnariats de l'intégration, que c'est fini, on ne marche plus dans la combine de la République, quoi. On fera pas nous les arbitres de nos, voilà. Ça c'est clair. Et le geste consiste à dire non, maintenant nous on va écrire pour précisément rétablir la dignité des nôtres, de nos parents. On va se faire les archivistes de nos vécus, de nos familles. On va les rendre plus beaux encore qu'ils ne le sont. Voilà, on va montrer toute leur beauté. On va montrer à quel point on est beau. Voilà. Et c'est un geste, en fait, qui consiste à dire on va essayer d'écrire au-delà, de se représenter au-delà du stéréotype. Et ça, je le disais tout à l'heure, c'est un geste qui ne manque pas de noblesse et qui, en plus, par ailleurs, est un geste qui accompagne un mouvement politique qui est le mouvement décolonial. Qui est le mouvement qui consiste à dire il faut se réconcilier avec soi-même, il faut s'aimer, il faut apprendre à s'aimer dans un monde qui nous a ratatinés. Et voilà, donc tout ça est très cohérent, en fait. C'est très bien. Sauf que dans ce geste, en fait, il y a quelque chose qui foire. qui foire, ouais, parce que ça ne, à force de vouloir rendre inoffensif, en fait, à force de vouloir nous embellir, on nous rend inoffensif, en fait, c'est ça que je voulais dire. On nous rend élucidés, voilà, on a tout expliqué, voilà pourquoi on est comme ça, parce que voilà, on décline tous nos vécus. Qui font que, voilà, si on. Enfin, tous les traumatismes, quoi, qui nous auraient affectés et transformés, etc. Et du coup, on est lucide, mais on rend inoffensif. Et en fait, j'ai le sentiment, moi, qu'il ne se passe pas souvent grand. Enfin, il ne se passe pas grand-chose au-delà de l'émotion qui consiste à dire, ah, c'est émouvant, voilà. C'est touchant et émouvant. Mais j'attends autre chose d'une littérature de barbare, moi. Autre chose que susciter l'émotion. Je rêve d'une littérature venant des nôtres qui suscite autre chose que c'est touchant, c'est émouvant ce que vous avez fait. C'était très beau. Voilà. Un truc, pour moi, la littérature, c'est un lieu de l'intranquille, c'est un lieu où on perturbe, où quelque chose se passe et c'est pas quelque chose qui est touchant. Et voilà, et c'est ça que j'interroge. Voilà, je cherche en fait à me dire peut-être qu'il faudrait trouver un destin, le destin littéraire du rap. Donc, parce que le rap, ce que fait le rap, c'est qu'il se décrit au-delà de l'exemplarité, au-delà de la beauté, au-delà de. Il est au-delà de ça, il ne se pose pas ce genre de questions. Et du coup, il vise quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut faire du rap, je dis que, en fait, pour écrire, il faut trouver la formule que le rap a trouvée, a chopée. Alors, je dis le rap comme ça, c'est très générique, mais bon, voilà, c'est pour qu'on comprenne, parce que le rap, évidemment, il y en a plein. Donc, il faut trouver ce truc-là, là. Il faut essayer d'en. Bah, là, pour moi, c'est la formule, c'est ça, c'est le rester barbare, et il faut essayer de le traduire en arme littéraire, quoi. Et c'est un travail, voilà, c'est un travail que j'appelle de mes voeux, en fait, pour moi-même, pour les autres. Fin.
Merci, Louisa.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Donc, je vais faire tourner le micro s'il y a des questions. Bon, sinon, moi, j'en ai une pour faire la transition.
Ouais, ça peut...
pour déplacer un peu la discussion sur un peu l'actualité, mais à travers le média Parole d'honneur, qui a été créé donc il y a 5 ans,
ouais, déjà.
Au moment de la campagne ou
ouais.
Au moment des...
Dans
ces... Et donc, avec l'idée de créer un média décolonial et indépendant. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de ces 5 années et ouais, voilà, nous dire comment ça se passe aujourd'hui après 5 ans de présidence Macron et de parole d'honneur.
Parole d'honneur, en fait, parole d'honneur, c'était la suite logique de ce qu'on avait fait en politique, c'est-à-dire que nous, on tenait à l'autonomie politique, organisationnelle, stratégique, etc. Le problème, c'est que quand on fait ça, ben, en fait, on se ferme toutes les portes. Et donc, du coup, il n'y avait pas d'espace, en fait, pour exprimer ce que nous avions à dire. Et ben, comme tout le monde, ben, on a dit, ben, on n'a qu'à faire un média. Bon, tout le monde fait ça, en vrai. Ben, on n'a qu'à faire notre propre média, etc. Sauf que souvent, le média tel qu'il est fait, il est. En fait, on s'est dit, on va le penser vraiment comme un média qui parle de politique, vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose. On va faire des vrais débats d'ordre politique. C'est-à-dire qu'on va parler comme si bah, nous aussi, en fait, on avait une proposition à faire. En fait. On n'est pas. Si vous voulez, on ne s'est pas juste cantonné à la. Posture revendicative ou protestataire. On ne s'est pas dit on va faire un truc sur les quartiers ou sur. Voilà, on s'est dit on va créer vraiment notre camp, en fait. Le camp décolonial, il va exister comme on voudrait le créer sur l'échiquier politique. Voilà, ben on veut le créer sur le champ médiatique, quoi, dans le paysage médiatique. On n'a pas encore rivalisé avec TF1 et France 2. Ce n'est pas l'objectif, bien sûr. Si je dois faire un bilan, je dois dire d'abord que ça a été assez extraordinaire parce que on est parti de rien. Je veux dire vraiment zéro centime. On est toujours resté indépendant. Il y a eu plein de rumeurs qui faisaient dire que le PC derrière nous, le PC, le PS, parce que le PC c'est pas grave, mais le PS c'est vraiment ça remuait des fantômes terribles. Plein de trucs comme ça. On a eu plein de déboires, etc. Plein de gens ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Mais on a eu un miracle dans notre histoire, c'est qu'il y a eu un endroit à Paris, à la Gare du Nord, qui s'appelle La Colonie, que je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a des gens qui connaissent. Mais maintenant, c'est fermé. Mais c'était... Vous ne vous rendez pas compte ce que c'était. C'était un endroit extraordinaire. C'est un immense café baigné de lumière, etc. Bref, énorme. Mais c'est surtout qu'il était tenu par un artiste franco-algérien qui s'appelle Kader Atia et qui avait décidé d'en faire le lieu de la pensée libre, mais surtout de la pensée décoloniale, des nôtres. Voilà, tout allait être possible, tout pouvait être dit. Enfin, dans cet espace, on pouvait tous se rencontrer. Toutes les luttes, parce que en fait, on dit le mouvement décolonial, bien sûr, c'est pas du tout homogène. Il y a plein de courants qui sont la guerre entre eux, etc. Et là, c'était l'occasion, c'était le ring, quoi. C'est là où on va pouvoir s'éprouver enfin, aller au bout des choses. Et vraiment, ça a fonctionné pendant plusieurs années. C'était un endroit où des centaines et des centaines de Noirs et d'Arabes venaient débattre de politique en plein milieu de Paris, enfin au centre de Paris. Et parole d'honneur, ben, filmer ça. Et c'était l'occasion de. Voilà, on voulait faire un truc un peu à la Polak, où les gens prenaient le micro et se mettaient à hurler je suis pas d'accord. Enfin, on s'était très libre comme ça et tout. Et c'était ça, en fait. Ça a pris. Ce que ça nous a dit, c'était qu'il y avait vraiment un vrai besoin, quoi. Parce que pour le coup, au début, ça a commencé. On a fait un post Facebook en disant rendez-vous à tel endroit. Mais c'était immense et puis ça fonctionnait comme ça. Et donc voilà, on avait fait le QG décolonial pendant les élections présidentielles où pendant les élections présidentielles, enfin tous les partis ont leur QG quoi, tout le monde se réunit et ben nous on s'est dit ben voilà, on a un QG ici. C'était le soir des présidentielles du premier et du second tour, bah ben, pareil des centaines de personnes beaucoup d'indigènes quoi, vraiment. Enfin moi je dis indigène pour dire c'est mon vocabulaire pour dire post-colonisé quoi. Et on était tous voilà et du coup il y a eu Macron effectivement qui était mais on a pu développer notre point de vue, c'est qui est quand même un point de vue qui est une lecture radicalement différente qu'on trouve pas ailleurs en fait et d'ailleurs c'est des choses qui existent encore partout enfin qu'on peut trouver quoi tout simplement. Et puis on a continué sauf que entre-temps il y a eu la crise sanitaire et du coup l'endroit n'a pas survécu enfin financièrement, du coup ils ont fermé. On s'est rabattu comme tout le monde sur les lives, les trucs comme ça, les zooms, voilà.
Et la colonie qui a dû fermer
à
cause de problèmes financiers
liés à la crise sanitaire, etc. Mais si vous voulez, ça a fermé mais la communauté que ça a permis de créer. Et l'élan, etc. Il est encore là, quoi. Il y a quelque chose qui persiste et qui attend à nouveau son lieu. Moi, je parlais d'un lieu d'énonciation, un truc un peu immatériel, mais c'est bien aussi les lieux très matériels avec des endroits hein, où se poser. En l'occurrence, Parole d'honneur, on a trouvé un autre studio qui est pas du tout de l'ordre de ce qu'on avait avant et tout, mais on s'est développé. On s'est développé à plein d'endroits. Je disais tout à l'heure qu'on était sur Twitch. On a changé aussi de manière de faire, c'est-à-dire qu'on alterne, on fait pas que des émissions sérieuses comme des militants, dogmatiques. On fait des émissions plus détendues, peut-être aussi parce qu'on a changé aussi nous. Enfin voilà, on s'est adapté. On est plus aussi sur le terrain de la culture, du culturel. Peut-être que je pense que ça s'inscrit aussi mon livre. Je veux dire, c'est une dynamique. Je ne sais pas penser comme ça. Hein. C'est pas une stratégie de groupe et tout, mais je pense que c'est lié, quoi. On s'est dit bon, il y a ce terrain, ce front à investir aussi, le front culturel. Voilà, donc on fait des. Voilà, ce que je pourrais en dire.
Bonsoir. Je m'appelle Iliès, franco-algérien, musicien. J'ai vécu à Toulouse et maintenant je suis à Paris. Pour vous dire que la colonie, c'était un merveilleux endroit. Moi, j'ai pu y aller qu'une seule fois à la fin, juste avant. Et c'était vraiment un endroit merveilleux. Pour vous dire aussi que le « nous » que vous utilisez quand vous parlez des attentats du 11 septembre, vous savez, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Moi, de mon côté, j'ai pu lire une partie de votre ouvrage, enfin de votre livre, et je me suis vraiment retrouvé dans ce texte-là, cette partie-là particulièrement, à titre personnel. Par rapport à ça, je dois dire qu'il y a une espèce de permanence parce que entre 2001 et aujourd'hui 2022, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une polémique il y a quelque temps après l'assassinat de Samuel Paty. Il y a eu une polémique par rapport à tout un tas de jeunes qui ne faisaient pas les minutes de silence dans les quartiers ou dans les lycées. Il y a eu, je crois, même des enfants qui ont été mis au commissariat. Voilà. À cette époque, je crois que j'aurais peut-être fini au poste. Parce que j'ai pas fait... Enfin, c'était en 2002 ou 2003, il y a eu une demande de faire une minute de silence nationale dans tous les lycées. Il se trouve que moi, j'étais dans le Gers. Il n'y avait pas beaucoup d'Algériens ou de Franco-Algériens. Mais j'étais là et j'avais ces expériences-là, en fait, dont vous parlez, des expériences familiales, d'analyse politique. Tiens, il se passe ici une invasion en Irak. Bon, c'était en 2003. Donc, il s'était passé d'autres choses après 2001. J'ai décidé, personnellement, de ne pas faire cette minute de silence. Et je me suis expliqué à mon professeur, à la fin du cours, qui m'a complètement compris. J'ai évidemment évoqué la différence de compassion en fonction des morts. Les morts irakiens, les morts en septembre 71, je crois, à Allende, qui se fait buter par la CIA. Enfin, on connaît l'histoire. Et j'ai dit, moi, les morts, j'ai de la compassion pour tous, mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, je refuse de... À ce moment-là, la barbarie, j'étais dedans à 100%. Et en fait, dans mon lycée, ça a tourné, l'information. Bon, je m'en suis sorti, hein, pas de souci, mais ça a été dur à expliquer à mes camarades avec qui, que j'étais pas pro-terroriste, que ça a été long. Et ça m'a fait quelque chose, dans le sens... c'est peut-être une des premières fois où j'ai dû me battre en tant que barbare pour dire oui, je suis barbare. Et en fait, il y a des raisons à ça. Écoutez-moi. Ce que je pense qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est sur ce retournement par rapport aux barbares, c'est-à-dire comment on peut faire finalement voir on est tous le barbare de quelqu'un, en fait, quelque part. Et je pense que dans la société civile française, si on parle de race, là je parle de race politique, je ne parle pas de race. Je pense que les Blancs ont ce travail à faire, d'écouter, de comprendre le positionnement, les positionnements d'où on se place en tant que franco-algérien. Moi, je ne suis pas issu des quartiers, j'ai une autre histoire, mais voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est présent, je crois, dans votre livre, je ne l'ai pas terminé. Ça fait du bien, c'était juste ce que je voulais dire. Donc, je n'ai pas vraiment de questions, mais voilà.
Merci, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est par rapport aux barbares, en fait, c'est une manière de dire aussi... C'est-à-dire qu'on a... Il faut, laissez-nous être barbares pour ne pas l'être tout à fait, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne l'est pas, bien sûr. Mais laissez-nous l'être, c'est-à-dire laissez-nous être autre. Et laissez-nous être une altérité inassimilable. C'est-à-dire pas en voie de... Voilà. Parce que c'est ça, la définition de la du barbare du point de vue de l'Occident, c'est les autres, avec un grand A. Mais nous, oui, d'accord. Autre, oui. Mais laissez-nous être autres pour éviter qu'on le soit tout à fait, en fait, barbare. Parce que c'est ça qui nous abîme, en fait. C'est pour ça que je dis que l'intégration nous abîme. Enfin, l'injonction à disparaître. Ça, c'est ça qui abîme, ça qui fait qu'on disjoncte, en fait. Et pour la barbarie, mince, ça m'échappe ce que je voulais dire. Peut-être que ça va revenir. Je voulais dire autre chose. Mais...
Peut-être une question, du coup.
Oui, si ça revient, j'essaye de...
Oui, je vais repasser. C'est bien pour, comme ça, on entend les questions après dans le... Ah, non,
c'était par rapport aux Blancs qu'il faut sauver, tu sais.
Ouais.
Il y a les chefs de tribus américaines, amérindiennes, qui disent la même chose. Ils disent qu'il faut qu'on sauve nos petits frères Blancs qui font n'importe quoi.
Oui, je trouve ça super, moi. Non, mais c'est super, en fait. Parce que c'est ça qui se passe. En fait. Ces retournements, c'est plus que moi. Ce que je tiens à dire vraiment, c'est que c'est pas de la coquetterie, quoi. C'est en fait, c'est le bon ordre. C'est le monde remis sur ses pattes, quoi. Le monde remis sur ses pattes. À un moment donné, j'ai dit, c'est pas quand on est dans un monde de fous, ceux qu'il faut guider, c'est pas ceux qui sont pas. C'est pas ceux qui arrivent pas à s'intégrer. C'est tous les autres, en fait, ceux qui y sont. En fait. Je cherche encore ce que je tenais à dire, parce que je crois que je tenais à le dire, mais je n'y arrive plus. Bon, ça viendra peut-être après en off. Mais juste par rapport au terrorisme, le problème, voilà, c'est ça que je veux tenir, c'est que en fait, on ne nous permet pas à ce moment-là. Tu sais, quand tu dis, mais moi, je ressentais pas la même chose, et j'étais même plutôt révoltée. J'avais envie de, voilà, je voulais pas faire ma minute de silence. Le problème, ce qui est grave, en fait, c'est de nous avoir empêché de nous raconter à nous-mêmes notre propre cohérence, c'est-à-dire. Que comme en fait le procès était déjà instruit, en fait si on pleure, ça veut dire que c'est bon, on est dans le camp du bien. Sinon, toute autre réaction. En plus, c'est des réactions qu'on juge, c'est très compliqué de juger une réaction. Je veux dire, c'est pas quelque chose sur non, t'es pas censé avoir prise là-dessus. Bah, c'est être dans le camp des terroristes. Et en fait, ce récit-là, à force de le marteler comme ça, moi, je pense que on finit par y croire nous-mêmes. Et on finit nous-mêmes par se dire, ah ben ouais, ça se trouve, en fait, c'est vrai que je suis pour les terroristes. Et chut. Ouais. Tu veux dire que toi, tu n'as jamais douté de la moralité de ce que tu avais dans ton cœur, quoi. Dans ce que tu... Ouais. Oui, oui, tu sais que c'est pas ça que tu souhaites, ouais, bien sûr. Mais c'est très bien, mais voilà, mais ça, c'est une barricade que tu crées. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a ce danger, et je crois que c'est même ça qui est voulu, en fait, qui est recherché de manière inconsciente, c'est qu'on se mette nous-mêmes à se faire le flic de nous-mêmes, en fait, et à s'empêcher de penser des trucs, parce qu'on ne se fait pas confiance, tout simplement, et du coup, à croire au récit qui nous... Voilà, mais à partir du moment où on se travestit, c'est ça que je veux. En fait, à partir du moment où on commence à rentrer dans une espèce de duplicité, à force, on ne sait plus ce qu'on cache, mais on a l'impression qu'on a un truc à cacher, quoi. Et on se comporte comme des coupables, en fait. Il y a quelque chose. Voilà. Et on se dit, bah, peut-être que c'est vrai. Et à partir du moment où on sent qu'on est coupable, ou qu'en tout cas qu'on a une défaillance en termes de moralité, et bah, du coup, effectivement, eux, ils peuvent arriver derrière avec le récit de. Par le salut intégrationniste, c'est comme ça, plus on va leur ressembler et mieux on sera. Et du coup, ils peuvent arriver derrière et nous, on y croit. Et effectivement, on va jouer le jeu plus facilement, en fait. Mais en tout cas, ça me rassure, en fait, de savoir que ça a été. Enfin, que tu as vécu la même chose.
Bonsoir. Du coup, j'ai juste une petite question, ça risque d'être confus, mais ça tombe bien parce que je crois que la question parle de confusion normalement. Et tout. Okay. C'était un moment quand tu parlais de cette histoire de copie que tu essayais de salir, en revenant aussi sur toi, ton historique de bon élève, bien assimilé en un sens, qui avait chopé tous les bons outils dominants, et que en fait, à ce moment-là, quand tu parlais justement de cette espèce d'effort qu'il t'a fallu faire, que tu tentes de produire peut-être à la fois dans ce livre et même au quotidien dans ta pratique politique ou quoi que ce soit, immédiatement, ce que tu as cité, c'était des outils qui étaient extérieurs. Tu parlais du rap, tu as parlé potentiellement de sources politiques aussi. Et puis en même temps, tu as eu comme un mouvement physique qui parlait peut-être d'un truc qui était plus introspectif, mais tu n'as pas forcément énoncé justement d'outils qui seraient encore restants en toi ou quelque chose comme ça. Et du coup, ma question, ce serait est-ce que ouais, tu penses que... Comment dire? Où est-ce qu'on peut chercher justement ces outils qui sont à l'intérieur? Est-ce qu'il en reste à l'intérieur de nous qui ont échappé à cette appropriation de l'Empire que tu nommes quand tu as dit ce que l'Empire n'a pas pris? Et je ne sais pas si tu veux
ouais, je vois revenir, ce que tu veux dire. En fait, je pense que... Alors, deux choses. Je pense que la première, je dirais que ce qui me sauve, et je pense que c'est par là qu'il faut aller, c'est la politique. Moi, je ne pense pas que la politique, ça dessèche le rapport à l'écriture et que par le dogme militant, du coup, ça empêche les trucs. Je pense qu'au contraire, ça apporte un certain rapport à... Ça oblige, c'est-à-dire que ça nous apprend un rapport à la vérité, à l'authenticité, à la loyauté, à des grandes valeurs comme ça, qui me semblent être plutôt favorables à ce truc de rester barbare que je recherche. Et donc, là, c'est pour ça que j'arrêterai jamais, je couperai jamais. Je veux dire, je peux, moi, écrire sans pratique militante ou quoi, je vois pas comment faire. C'est un truc qui... C'est la politique qui me permet ça, en fait. C'est ça qui me permet de rester aux aguets et d'être vigilante et de lire en justement avec des lunettes qui sont différentes. Ouais, j'ai l'impression que je perce mieux les choses, que je saisis mieux les enjeux en fait, des textes aussi. Parce qu'un texte, c'est jamais pur comme ça. Ça ne s'écrit pas dans l'absolu. Ça ne flotte pas dans les airs. Ça s'inscrit quelque part dans une époque, dans un rapport de force et tout. Et c'est toujours bien de t'avoir. Voilà. Même si, paradoxalement, c'est aussi ça qui va paralyser. Enfin, je veux dire, c'est ça qui tétanise, parce que comme on a conscience de tous les rapports de force qui sont en place et de tout ce qui se passe, comme on a un rapport trop réflexif en fait à l'écriture, bah du coup c'est vrai que ça bloque quoi. Moi je crois que c'est peut-être aussi ça qui fait que ça a été compliqué. C'est pour ça que moi ça fait des années que je cherche à écrire et j'arrive pas parce que à cause de ça. Et c'est ça que je crois maintenant, mais ça je l'ai compris après. Bien entendu, c'est que ce livre, il est performatif, c'est-à-dire que il est là pour dire je vais t'empêcher de faire ça, je vais t'empêcher de trahir. En fait, avec ce livre, moi je me marque au fer rouge quoi. C'est une manière de dire je commence comme j'espère que j'en écrirai d'autres, mais c'est une manière de dire commencer avec ça, avec ce manifeste. C'est dire voilà, tu peux pas avoir écrit ça et te faire récupérer après, tu peux ça c'est ma ligne d'horizon, c'est ma manière de m'empêcher d'être de me faire avoir, parce que moi ça me travaille beaucoup la question de la trahison. C'est pas, je crois que ça travaille tout le monde en vrai, même ceux qui s'en défendent, qui disent mais non, mais moi je me sens individu, je me sens pas relié à une communauté, mais ils s'en défendent tellement fort qu'on voit bien que c'est justement qu'ils le disent par rapport à une réalité en fait, parce que le poids de la communauté elle existe en fait, hein. Et le poids de, c'est pas le poids de la communauté, mais le poids du rapport de force entre notre appartenance, voilà. Et la trahison, moi c'est quelque chose qui m'obnubile, qui m'obsède, parce que je sais que c'est pas, on travaille pas un matin et un jour il y a une espèce de dilemme et on doit trahir ou pas quoi. Et ça n'arrive pas comme ça. C'est la trahison, c'est une ombre qui se déplace tout au long de notre parcours. C'est une possibilité qui est toujours là. Et un jour, elle te bouffe quoi. C'est pas du jour au lendemain, c'est très progressif, c'est très insidieux. Ça peut arriver. Sans t'en rendre compte, en fait, tu te rends compte que t'es invité de plus en plus dans les librairies. que tu passes dans les Arocs. Non, mais je dis pas que ceux qui sont forcément des traîtres. Hein. Mais je veux dire, en tout cas, c'est des signes, moi, qui, je sais, qui vont faire que je vais être encore plus alerte, qui vont m'inquiéter. C'est pas des signes que je... non pas que je mise sur le... C'est parce que ça serait un truc impuissant que de dire « Ah, j'espère qu'il n'y a personne qui va aimer le livre, ça n'a pas de sens, quoi. » Mais ça veut dire que je cherche à marcher sur un fil, quoi, sur une lisière, quoi, qui est vraiment très, très fine, de manière à ce que, à la fois, me faire comprendre par le plus le grand nombre, et effectivement, et en même temps, ne pas laisser retomber l'ardeur que je cherche à voir, quoi, voilà. Mais voilà, ça, c'est, après, c'est encore une fois, c'est ce que je dis, c'est rester aux aguets. Je pense qu'il faut être un animal aux aguets. Et c'est notre destin de post-colonisé, quoi. Animal aux aguets, à l'affût.
Simplement. Est-ce que je peux rajouter, ce sera pareil, pas une question vraiment encore, mais genre, sur ce rester barbare, j'allais dire, est-ce que parfois il n'y a pas aussi ce sentiment, et au-delà d'être un sentiment qui peut même être un geste politique, tu vois, et... recherche aussi qui peut exister, qui serait presque redevenir barbare, tu vois, ou
c'est ouais.
Tu l'empruntes, tu vois, mais
c'est marrant parce que tu l'as pas lu, donc ça te fait pas partie des privilégiés qui l'ont lu. Non, mais parce que dans le premier chapitre, je dis qu'il s'agit en fait de le redevenir, effectivement, donc en endossant la vérité de ce terme, c'est-à-dire en fait En fait, ce que je dis, c'est que ce qui est craint, en fait, en nous, c'est pas justement notre prétendu manque de moralité, d'humanité, etc. C'est précisément l'inverse, c'est-à-dire notre culture, nos traditions, nos valeurs, nos normes, tout ce que justement ils n'ont pas, en fait. C'est ça qui est craint. Donc mais justement, c'est pas de la barbarie, ça. C'est ce qui fait notre âme, en fait. C'est ce qui est craint, c'est notre âme. Et c'est à notre âme que l'intégration en veut, en fait. L'empire en veut à notre âme, tu vois. Il veut faire la peau à ça. Et c'est ça qu'il faut tenir, tu vois. Et bien sûr que ça peut être... moi, je pense que ça peut être quelque chose de... une démarche volontariste, quelque chose de très réflexif, recherché. Oui, je pense que... Moi, ma façon, c'est la politique. Mais la politique, c'est quelque chose de très théorique, hein. Du coup, ça m'a permis de... J'ai eu besoin de clarifier. De clarifier toutes les choses. Après, la difficulté, ça a été d'en faire ensuite un geste littéraire. Parce que quand on a de la théorie, après, il faut pouvoir, en fait, c'est une transformation. Voilà. Mais la clarification et le c'est comme toi, ce que j'ai l'impression que tu dis, c'est ça peut être quelque chose comme d'une discipline qu'on se donne, quoi. C'est ça.
Pardon, ouais. Ça peut être effectivement un truc qui est disciplinaire, de rigueur, j'en sais rien, moi, de recherche, enfin de pratique, j'ai l'impression. Je suis pas sûre que tous les termes soient hyper. Mais il y a ça. Et après, il y avait peut-être ce que je disais sous le terme de fictionnel aussi. Qui, ça, je pense, est un peu un truc que beaucoup, je pense, de gens, soit issus de l'immigration. Moi, admettons, je parle aussi d'un point de vue où je suis entre deux, entre guillemets, où j'ai un côté français, un côté algérien. Donc, il y a aussi forcément des choses qui ont été choisies et certaines qui ont été oblitérées. Et de, ensuite, a posteriori, justement, quand tu es dans une posture qui se veut politique, tu vois, de comment est-ce qu'on reconquérit ça. Il y a eu des effacements, il y a eu des choses de comment tu viens le reconstruire a posteriori. Et ce fictionnel aussi qui peut parfois faire peur, je trouve, depuis l'intérieur, de jusqu'où, en fait, admettons, on est dans le fantasme aussi de ce qu'admettons nos propres parents ne posaient pas eux-mêmes.
Je pense qu'il faut assumer. Il faut assumer le fait que non, mais on va jamais redevenir barbare. Hein. Ça c'est. Et puis on a eu. En fait, notre authenticité, elle est foutue. Enfin, il n'y a pas d'authenticité. Voilà. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Mais c'est un fantasme régulateur. C'est un modèle régulateur qui nous permet de placer, comment dire, de dessiner un horizon qui soit autre que le destin qui nous est vendu, quoi, qui est une arnaque, qui est juste notre disparition, tout simplement. Et c'est une manière de... C'est une façon de... Moi, je dis pas qu'il faut ériger comment dire, un âge d'or d'un moment où on aurait été précolonial, quoi, par exemple. Je pense qu'il faut assumer le fait que non, mais on va jamais se retrouver. Mais en revanche, on va trouver quelque chose d'autre. Et le barbare, c'est ça, je le dis aussi. Le barbare, c'est pas le sauvage, c'est pas la figure du sauvage. Le barbare, c'est une figure du futur. C'est pour ça que c'est important de dire le barbare. Les barbares, ils arrivent en général. Les barbares arrivent. Ils sont condamnés à venir. C'est toujours une figure qui est devant la civilisation, qui est devant nous, en fait. Et donc, effectivement, ça appelle un geste fictionnel, effectivement. Ça appelle un geste imaginatif, créatif. C'est aussi pour ça que je suis passée par la littérature, etc. Et le rap aussi. Parce que le rap, c'est une manière aussi de se raconter en légende. Bah, PNL, c'est la légende. Bah, c'est pareil pour Booba. C'est des légendes, c'est des mythologies, en fait. C'est des mythologies des temps modernes, quoi. Les rapports, c'est ça qui recrée, en fait. C'est une manière de se raconter différente, une manière de s'agrandir aussi. C'est des nouveaux mythes. Donc, oui, mais je pense qu'il faut, ouais, il faut assumer ça. Et c'est, moi, de toute façon, je le conçois bien sûr comme quelque chose de... comme un horizon fictionnel. En fait, oui, je dis même comme une utopie, en fait. En fait, il faudrait imaginer une utopie décoloniale, comme toutes les traditions politiques ont leurs utopies. Quasiment, je crois. Enfin, je dis ça comme ça, une phrase, je ne suis même pas sûre. Parfois, j'avance des trucs. Non, mais en tout cas, il y a des utopies de gauche, quoi. Mais oui, mais par contre, il faut trouver l'utopie, notre utopie, l'utopie décoloniale. Et ma modeste proposition, c'est que, par exemple, cette utopie, elle pourrait s'appeler la barbarie, comme un pays, en fait, barbarie au sens c'est le pays, quoi. Le pays de la barbarie, voilà. Imaginons ça, quoi. Osons imaginer un truc comme ça. Et à quoi ça ressemblerait, etc. Et voilà, et créons ça, quoi. Dans tous les domaines, sans littérature ou ailleurs. C'est... Et en politique.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, avant de redonner la parole? Non. Sinon, on prend une ou deux.
Justement, par rapport à ça, question, est-ce que tu as des rapports avec les... Parce que, bon, du coup, moi, c'est pareil, je suis franco-algérien, une mère gasconne et un père algérien. Et donc, je suis né en Algérie, donc je connais bien l'Algérie, mais bon, je suis arrivé jeune dans le Gers. Et malheureusement, mes grands-parents gersois m'ont pas trop parlé gascon. Je sais pas si tu vois... Et donc j'ai perdu le gascon, même si je sais dire Adichat et Hildepute, par exemple. Mais c'est des choses pour moi, en fait, dans mon ressenti, qui sont très finalement, qui sont assez proches. C'est-à-dire la perte
Bien sûr.
Du gascon. C'est-à-dire qu'en gros, la France s'est colonisée elle-même avant de coloniser l'Algérie et puis d'essayer de continuer à coloniser les êtres humains issus de l'histoire coloniale. Mais du coup, il y aurait des rapports à faire entre. On sait très bien en Occitanie qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont récupéré la tradition occitane, la poésie, mais les chants aussi. André Maviel, enfin, il y en a un paquet. Et du coup, j'ai toujours imaginé des ponts entre ces zones-là. Et autre question, donc, est-ce que tu as pensé à ça? Et est-ce que. Quel rapport on doit du rap avec la rue, justement? Passer des salons littéraires ici, là, et vraiment la rue, comment faire? Voilà.
Non, pour le gascon, mais évidemment, en fait, c'est ce que tu décris, c'est la logique de l'État-nation. En fait, l'État-nation a broyé toutes les identités qui existaient sur le territoire français pour en faire justement, pour en faire une identité unifiée, uniformisée, quelque chose d'assez totalitaire, en fait. Hein. Mais les Bretons, ils pourraient dire la même chose. Les Corses, ils auraient des choses à dire aussi. Enfin, les Ch'tis. Donc bien sûr que tout ça c'est parce que la matrice du pouvoir sous lequel nous vivons c'est une entreprise qui broie les différences en fait, c'est une entreprise de domination, voilà, c'est une entreprise identitaire pour le coup, parce qu'on dit souvent que c'est nous les identitaires, mais être identitaire c'est avoir le pouvoir justement d'imposer une identité à des gens qui n'étaient pas, enfin, dont ce n'était pas la leur, quoi, tout simplement. Et oui, bien sûr qu'il y a des ponts. Mais le mouvement décolonial, il fait ce pont-là. Il y a des textes. Il y a même dans la pratique. Hein, dans la pratique, on a été reçu dans le Pays Basque. On a été reçu à différents endroits comme ça par des. Enfin, des indépendantistes du Pays Basque. Non, mais par voilà. Par des régionalistes, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais en tout cas, c'est des questions, bien évidemment, qui. Ouais, des points sont à faire. Et la question sur le rap et la rue, je suis désolée, en fait, je n'ai pas très bien compris la question.
Ces débats-là, enfin, en gros, c'est le rapport entre la rue. Ouais. Et là, quand je dis ça, je parle aussi de niveau de enfin, je sais pas si vous avez fait un master ou enfin le niveau de déconnexion justement avec le quartier ou avec vraiment les origines sociales, parce que enfin pour moi aussi tout ça c'est très politique dans le sens social et du coup comment est-ce que tous ces débats là les faire se réapproprier enfin que le corps social finalement barbare enfin si puisse se réapproprier ça jusque dans la rue, en fait. Et ça, c'est des questions que je me pose. Je ne sais pas si...
Oui. Non, mais c'est intéressant parce que moi, j'ai veillé à ne pas aborder la question du rap comme un chercheur l'aborde, quoi. Ou les linguistes, ils sont là, genre, ah, trop bien, il y a un zogma. Ils cherchent les figures de style et ils trouvent ça extraordinaire, quoi. Et ils ont l'impression qu'ils ont décortiqué la richesse de ce que voilà d'un objet qu'ils ne comprennent pas. Mais eux, du coup, leur seule manière, parce que pour eux, la richesse, elle est forcément dans ça, en fait, dans le des codes qui sont liés à leur formation, à la langue et tout. Et je dis pour Booba, bah Booba typiquement, c'est là, on est en plein dedans, parce que Booba, c'est vraiment le rappeur dont on dit tous les linguistes, ils sont là, ils s'émerveillent, quoi. Ah, oh, c'est génial, c'est un poète du bitume. Et tu sens qu'il y a une entreprise de légitimation via la, par la littérature. Le rap devient un objet estimable parce que ça devient un objet littéraire. Et que, voilà. Ça, j'ai veillé à faire un sort à ce traitement-là, du rap. C'était très important pour moi. Mais en fait, je n'ai même pas à le faire moi-même parce qu'en fait, les rappeurs le font, ce sort-là. Et Booba aussi, parce que Booba, il se dérobe à ses explications de texte et ses trucs. Et en fait, il s'en fout, quoi. Tu vois, de dire, est-ce qu'il fait une métagore, toutes les figures de style qu'on lui prête, etc. Et en fait, ce que je dis avec, par rapport au rap, c'est que c'est une entreprise. Le rap, en fait, il faut imaginer que c'est comme si, en fait, il faut imaginer la langue française comme un temple sacré, tu vois. Et tous ceux qui ont été triés à l'extérieur, mais qui ne sont pas rentrés, eh ben, ils essayent de secouer ce temple. Ils font trembler ces murs. Et ça, c'est la fonction du rap, des rappeurs. Et ils font peur, du coup, à ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'ils ils tiennent à leur mur autour d'eux, tu vois. Et donc, il y a une espèce de tension comme ça. Et t'as ceux qui veulent faire les médiateurs, qui disent non, mais c'est intéressant ce qu'ils font. Pour les domestiquer aussi, c'est une façon de domestiquer la puissance du rap, hein, que de vouloir, comme ça, les mettre dans des revues. Mais voilà, mais là aussi, effectivement, c'est pas parce qu'on a fait du rap que c'est bon, on est irrécupérable. Hein. Ça suffit pas. Hein. Mais il y a des phases. Mais là aussi, de toute façon, tout a vocation à être bouffé et dévoré. Mon livre compris. C'est vrai. Malheureusement.
Merci Louisa, merci à toutes et tous. Vous pouvez continuer d'échanger, acheter le livre tant qu'il est temps. Et sinon, à très vite. Merci encore. Merci.
C'était Rencontre avec Louisa Yousfi autour de son ouvrage Restez barbare, paru aux éditions La Fabrique.
Radio Livre Dormir.